Radio Okapi.
Le journal Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. Samuel Mbemba, ministre des Droits humains, recommande des sanctions contre le Rwanda pour les exactions commises dans l'est de la RDC. C'était en marge de la réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme clôturée hier mercredi à Genève, en Suisse. Nous parlerons aussi dans ce journal de la Chambre des commerces, industries et services qui annonce la création d'une centrale d'achat de produits agricoles des femmes commerçantes dénommées Proxy Marché Pénépéné. La Fédération des entreprises du Congo sollicite du gouvernement congolais une mise en œuvre échelonnée du SMIG. L'appel a été lancé mardi 24 février par John Mwenda, chargé de la cellule du Conseil national du travail de la FEC. Ce thème était au centre de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir. Vous allez suivre tour à tour les intervenants à cette émission animée par Guy Matechongo. Encore une fois, bonjour à tous. En marge de la réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme clôturée ce mercredi à Genève, en Suisse, le ministre des Droits humains a recommandé des sanctions contre le Rwanda pour les exactions commises dans l'est de la RDC. Samuel Mbemba a insisté sur le fait que le silence de la communauté internationale dans le cas de la RDC n'est pas synonyme de neutralité, mais de complicité. Il a également accusé l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, d'avoir pris en otage 30 000 exploitants artisanaux à Rubaya, auxquels ils imposeraient une production individuelle de 3 kilos de coltan par jour. Samuel Mbemba au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
À l'heure actuelle, nous comptons 17 015 morts. Une femme est violée chaque 4 minutes. Et la cause de tout cela, c'est l'exploitation et minerai de la RDC. Dans le Nord Kivu, comme dans le Sud Kivu, vous avez la présence claire des militaires rwandais qui exploitent les minerais de notre pays. Ici, le cri de la RDC consiste à demander aux Nations Unies de sanctionner leurs dirigeants rwandais qui sont à la base de l'agression de la RDC. Ce que le Rwanda de Paul Kagame fait en République démocratique du Congo est pire que ce que le roi Léopold II a fait chez nous.
Dans le cadre de son périple de sensibilisation de la communauté internationale contre les atrocités commises par le Rwanda en RDC, le ministre des Droits humains est attendu ce week-end devant les étudiants de l'Université Saint-Paul à Ottawa, au Canada. La Chambre de commerce, d'industrie et de services KICS RDC annonce la création d'une centrale d'achat des produits agricoles des femmes commerçantes dénommées Proxy Marché Pénépéné. Avec l'appui d'un cabinet international, les KICS RDC va aménager cette centrale dans la périphérie de Kinshasa. La première phase des travaux qui vont durer une année coûte environ 50 000 dollars, selon Jean-Robert Issifoi, président de cette chambre de commerce. D'autres proxys marchés seront aménagés dans d'autres provinces du pays. Par ailleurs, il annonce une mission économique au Maroc avec quelques femmes commerçantes dans le cadre des préparatifs de ces grands projets. Organisés en coopérative, ces femmes pourront bénéficier de la franchise des entreprises marocaines. Jean-Robert Issifoi donne les détails de cette mission au micro de Grace Amzati.
Les proxy marchés seront des marchés franchisés. Pour bénéficier de la franchise, vous devez suivre une formation. C'est pour ça que nous avons pensé à organiser une mission économique dans les semaines qui viennent au Maroc, pendant quelques jours, une semaine je pense, pour permettre à une dizaine de nos mamans, femmes commerçantes, et à quelques hommes, pour suivre la formation de création de coopératives, mais des coopératives un peu de niveau élevé, la formation sur tout ce qui concerne la franchise, et aussi voir des expériences des coopératives dans d'autres pays, comment ça se passe ailleurs, pour justement obtenir la formation des formateurs et des formatrices dans le domaine de la création des coopératives et de franchises structurées. Ça fait quand même plus de 3 ans que la Chambre existe. Il y a des mamans que nous connaissons, elles vont venir, elles ont leurs activités connues. Qu'elles parlent français ou pas, elles vont venir. Il y aura des traducteurs maximum.
Réuni ce mercredi 25 février à Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et les responsables de l'Office congolais de contrôle ont assisté à la présentation du système national informatisé des certifications aux normes congolaises dématérialisées, NCD, mise en place par Viderier Technologie. Cette réforme vise à renforcer la compétitivité des produits Made in DRC, simplifier la certification et réduire les délais à moins d'une semaine. Le ministre appelle les secteurs publics et privés à s'approprier cette innovation. On écoute les explications de Hans Mazimindibou de Viderier Technologie dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Le système dont il est question, c'est un système qui a été mis en place pour essayer de digitaliser le processus de certification des produits, des systèmes de management et des personnes. Ce système prend en charge le processus de bout en bout de la certification des produits. En fait, nous avons résolu un sérieux problème qui se pose actuellement en RDC où la population est victime de la consommation de certains produits illicites, certains produits qui ne sont pas bons à la consommation. Mais grâce à ce système-là, avec l'OCC qui est l'organe national de la certification, nous arrivons à prendre en charge toutes les demandes de certification émises par les ACGC, donc les opérateurs économiques et vendent dans l'industrie locale pour en fait certifier les produits et permettre à la population congolaise de consommer ce qui est bon pour la santé. Alors, pour tous les opérateurs qui œuvrent tant dans les secteurs publics que dans les secteurs privés, nous vous encourageons à faire certifier vos produits puisque dorénavant, nous misons sur la qualité. Et la certification, c'est l'un des arguments qui va faire promouvoir vos produits sur le marché congolais et pourquoi pas sur le marché international.
À Bounia, pendant ces temps, 10 nouveaux receveurs et receveurs adjoints viennent renforcer les rangs des collecteurs d'impôts dans la province de l'Ituri. Ces agents du fisc ont prêté serment mardi devant les autorités compétentes. Leur mission, contribuer au recouvrement des recettes dues au trésor public afin de soutenir les finances de l'État. Le chef de la division provinciale des finances a invité les nouveaux assermentés à faire preuve de loyauté dans l'exercice de leurs fonctions et à éviter tout abus de pouvoir. De son côté, Albert Chikulunda, représentant du directeur provincial des finances dans l'ex-province orientale des Membrés, est revenu sur les attentes du gouvernement et de la population face aux responsabilités qui leur sont désormais confiées. Un extrait de ses propos sélectionné par Jean-Claude Lokidile.
Les recettes publiques donnent à l'État les moyens de sa politique. Elles financent la sécurité nationale, les infrastructures, les services sociaux, le fonctionnement des institutions et j'en passe. Sans recettes suffisantes, l'État est affaibli. Mais avec des recettes mobilisées efficacement, l'État peut agir. C'est dans ce sens que je sollicite votre accompagnement constant, l'appui des services provinciaux, la collaboration des autorités administratives locales et le soutien des forces de sécurité lorsque l'exécution des mesures de poursuite l'exige, la mobilisation des recettes étant, du reste, une responsabilité collective.
Et puis au Kassai, la Direction générale des recettes du Kassai a scellé lundi tous les services de l'électricité du Congo. La DGRCAS accuse l'entreprise de n'avoir pas payé ses taxes et impôts liés à l'exploitation des ressources énergétiques pour plusieurs exercices. Le point avec André Katende.
La Direction générale des recettes du Kassai a procédé à la mise sous scellé de toutes les installations de l'électricité du Congo pour non-paiement des taxes et impôts provinciaux. Selon la DGRCAS, l'EDC cumule une dette fiscale importante couvrant la période de 2021 à 2025. D'après la directrice générale de la régie financière, Brigitte Isaka, les taxes concernées portent notamment sur les droits d'implantation des cabines électriques des moyens moyenne et basse tension, ainsi que sur la redevance liée à l'exploitation des ressources énergétiques dans la province. Les montants principaux de la dette s'élèvent à 36 milliards 700 millions de francs congolais. À ces chiffres s'ajoutent des pénalités de 15 milliards 728 millions, portant la dette totale à 52 milliards 428 millions de francs congolais. La DGRCAS invite les DC à s'acquitter rapidement de ses obligations fiscales. À défaut, elle annonce qu'une procédure de recouvrement forcé sera engagée conformément à la loi. Kananga, André Katendena Lamulume, Radio Okapi.
Situation similaire au Kasaï oriental où le gouvernement provincial a annoncé la résiliation du contrat liant l'office de route à l'entreprise GMC Johnny Matata Company, chargée de la réhabilitation de plusieurs axes routiers dans la province. La décision a été rendue publique ce mardi à Mbujimayi lors du compte rendu du Conseil des ministres provinciaux lu par Maître Pascal Ernest Ilunga, porte-parole du gouvernement provincial. Esther Ndalafina.
Selon les informations fournies par l'office des routes, les contrats concernent notamment les corridors Katende-Lac-Moukamba sur la RN1 où JMC a été mandaté pour exécuter les travaux d'élargissement de la route ainsi que de sa modernisation. L'information autour de la résiliation du contrat a été annoncée par Maître Pascal Ernest Ilunga dans le compte rendu du Conseil des ministres provinciaux tenu ce mardi à Mbujimayi.
Le Conseil a été également tenu informé par le ministre de la rupture du contrat de la GMC avec l'Office des routes pour insuffisance des résultats.
Toutefois, le directeur provincial de l'Office des routes, Marcus Okita, a indiqué que trois autres partenaires du gouvernement avaient déjà mené des études sur la réhabilitation de cette route, ouvrant la voie à de nouvelles alternatives.
Le gouvernement a jugé bon qu'on puisse accorder cette partie-là aux partenaires parce qu'ils avaient déjà mené les études sur ces tronçons-là. Et on va voir comment délocaliser GMC pour lui accorder un autre tronçon.
Signalons que cette rupture intervient dans un contexte de critiques récurrentes. Les habitants du territoire de Kabakamanga ont à plusieurs reprises dénoncé la qualité des travaux exécutés par GMC. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans le chapitre de l'éducation, le gouvernement entend instaurer une administration axée sur la performance dans la gestion des épreuves certificatives en RDC. C'est dans ce cadre qu'il a organisé du 23 au 25 février à Kinshasa un atelier consacré à la digitalisation de l'examen d'État. À la clôture de ce forum de 3 jours, les participants venus des 60 provinces éducationnelles du pays ont pris l'engagement de mettre la digitalisation au service du système éducatif congolais afin de contribuer au bien-être de la jeunesse. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au terme de 3 jours d'échanges et débats, les inspecteurs principaux provinciaux, les directeurs des provinces éducationnelles ainsi que d'autres acteurs du système éducatif ont recommandé la formation des chefs d'établissement scolaire à l'administration numérisée. Ils ont souhaité que les points scolaires soient désormais transférés de manière digitalisée afin de respecter les échéances des épreuves certificatives. Ces acteurs ont également demandé que les mal des copies d'examen parviennent au centre de scannage au plus tard le 28 juin de chaque année. Ils exigent qu'à partir du 20 juin, les inspecteurs principaux provinciaux valident les points scolaires avant le début de la session ordinaire de l'examen d'État. Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale explique que cette approche ne vise pas seulement à moderniser la gestion des établissements scolaires, mais également l'équerre du système national d'évaluation. Raissa Malou.
Je vous exhorte donc à faire du professionnalisme votre seule boussole. Soyez les artisans d'un système où la transparence n'est pas un slogan, mais une réalité chiffrée et vérifiable.
De nombreux observateurs attendent désormais la mise en œuvre des résolutions de cet atelier afin d'améliorer de manière significative les systèmes éducatifs congolais.
Éducation encore, province du Tanganyika, le recteur de l'université de Kalemi a exclu définitivement 4 étudiants. Dans une décision prise lundi dernier, le professeur Victor Kalunga Chikala indique que ces étudiants se sont rendus coupables d'actes contraires à leur statut d'étudiant et des membres de la coordination estudiantine. Ces étudiants sont accusés notamment de non-respect des instructions académiques en matière d'organisation des manifestations publiques et d'appel au boycott des activités académiques. En réaction, l'un des étudiants exclus dénonce cette décision et en appelle à l'intervention du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Les propos de Bruno Luboulou sont recueillis par Paul Emonanga.
C'est depuis hier aux environs de 14 heures que nous avons vu ces documents affirmant que nous sommes renvoyés définitivement de l'université de Calumi.
Nous avons réclamé exactement l'incohérence du taux et l'absence de monsieur le recteur au sein de l'université des ans déjà et aussi manque d'enseignants et la non-organisation du secteur académique. Ce qui nous étonne, c'est que on a rabaissé le taux, les enseignants sont payés, il y a même les chantiers qui devraient finir depuis 2023 et ils ont commencé déjà avec les travaux depuis aujourd'hui, selon nos sources. Nous alertons les autorités au niveau national, aussi que notre ministre de l'ESI, sur cette décision qui est en train de briser l'avenir de la jeunesse. On ne sait pas si la qualité d'étudiant est au-dessus de la Constitution, alors que cette même Constitution nous donne le droit de réclamer lorsque nos droits sont violés. Donc, nous appelons les autorités à prendre cet aspect des choses au sérieux, à pouvoir nous remettre dans nos droits et d'abolir cette décision qui est contre les gains.
Contacté, le recteur de l'Université de Calumi affirme que ces étudiants ont été manipulés dans un vaste complot par des personnes mal intentionnées, avec comme objectif de déstabiliser l'institution. Professeur Victor Kalunga souligne que la décision d'exclure ces étudiants est prise pour préserver son institution. Pour rappel, ces étudiants préparaient une manifestation pour dénoncer notamment la mésgestion au sein de l'UNICAL et l'absence prolongée du recteur.
Actualité internationale.
Malgré une croissance solide, l'Afrique reste prisonnière d'un cycle récurrent des crises de la dette, alimentée par des chocs extérieurs et une architecture financière internationale inadaptée. Pour l'économiste gabonais Hugues Mbandinga Madia, seule une industrialisation patiente fondée sur la transformation locale et la création des valeurs ajoutées permettra de desserrer durablement les taux de l'endettement.
L'invité.
L'AFEC sollicite du gouvernement congolais une mise en œuvre échelonnée du deuxième palier du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. L'appel a été lancé mardi 24 février par John Mwenda, chargé de la cellule du Conseil national du travail à l'AFEC, lors d'un entretien exclusif accordé à Radio Capi. Cette réaction intervient juste après la clôture, le vendredi 20 février, des travaux du Conseil national du travail. Ce thème était au centre de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir. Suivez les réactions des intervenants au micro de Guy Maté Tchongo.
John Mwenda, vous êtes chargé de la cellule SMIG, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement qui demande aux employeurs de payer le deuxième palier du SMIG qui est fixé à 21 500 francs congolais par jour?
Les revendications sont simples. On ne refuse pas le 21 500. Nous avons simplement demandé, allons-y par palier. Nous avons déjà fait un gros effort en appliquant 14 500. On est d'accord d'appliquer dès janvier 2026 16 500. Nous sommes d'accord d'appliquer 19 500 dès le mois de juillet 2026 et nous chuterons en janvier 2027, après une brève évaluation, à appliquer 21 500. Tout cela, nous sommes d'accord. Ça, c'est pour les autres secteurs. Mais il y a un secteur particulier qui est le secteur de l'agropastoral et forestier. Vu que nous parlons d'un secteur qui est complètement sinistré, la demande de l'AFEC et de toutes les corporations patronales, la demande, elle est simple. C'est un secteur qui est sinistré, qui n'a pas de subvention. Les allègements qui étaient promis depuis près de 25 ans ne sont pas encore en place. Ce que nous avons demandé, et je pense que la partie gouvernementale et la partie syndicale, nous tous, nous étions d'accord que nous étions pour les allègements. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pendant que les allègements ne sont pas là? C'est comme ça que, pour sécuriser les entreprises, car les contrôles vont reprendre, on ne veut pas que les entreprises se retrouvent en porte-à-faux avec l'inspection générale du travail, nous avons demandé un moratoire, que ce secteur continue à rémunérer ses agents tels qu'il le faisait, parce que ce secteur, même les 14 500, aujourd'hui c'est un secteur qui ne peut pas appliquer. Si ce secteur applique, c'est un secteur d'abord qui est tellement effrité, on risque simplement de voir ce secteur disparaître complètement. Donc nous avons demandé un moratoire pour ce secteur en attendant les allègements et nous avons aussi demandé l'instauration du SMAC tel qu'il se fait dans plusieurs pays comme le Maroc, le Mali, le Cameroun. Il y a plusieurs pays, la Côte d'Ivoire, des pays qui progressent, des pays qui produisent de plus en plus. N'oublions pas que nous parlons du secteur qui a le plus gros potentiel de création d'emplois dans notre pays. Donc nous devons traiter ce secteur avec délicatesse et nous assurer que tout ce que nous allons prendre comme mesures vont aider à la création d'emplois.
Donald Bagula Mugangu, vous êtes secrétaire général de l'emploi et travail. Comment vous réagissez à cette proposition de l'AFEC qui demande l'application de manière échelonnée du deuxième palier du SMIG?
Nous avons longuement discuté de toutes ces questions la semaine dernière. Son Excellence Madame la Première Ministre a reçu la Fédération des entreprises du Congo ainsi que les autres partenaires sociaux pour discuter de cette question et a estimé qu'il fallait rentrer autour de la table pour discuter de cette question entre parties.
Est-ce qu'on peut retenir que les employeurs ont déjà commencé à payer depuis le mois de janvier 2026 les 21 500 francs congolais par jour ou ils n'ont pas encore commencé à payer parce que les parties n'ont pas encore trouvé un compromis?
Non, un bon nombre d'employeurs payent déjà à ces taux-là.
Les 21 500 francs congolais.
Effectivement. Il y a des entreprises qui payent, mais il y a des entreprises aussi qui ont des difficultés pour payer à ces taux-là.
Et par rapport à ces entreprises qui ont des difficultés, qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement?
Et c'est ce que je dis. Donc, on doit les remettre au sein de l'entreprise, puisque l'entreprise connaît les difficultés qu'elle traverse, s'asseoir avec sa délégation syndicale pour voir jusqu'à quel niveau ils peuvent déterminer la tension. Le SMIC est fixé, qui est de 21 500, puisqu'il est du domaine de la loi, est fixé de manière réglementaire. Mais l'entreprise peut s'asseoir et déterminer, nous payons le 21 500 comme salaire plancher, au moins 10 ans, donc au moins payé, et déterminer jusqu'à quelle hauteur ils peuvent fixé pour les autres catégories.
Polydor Tangeli, vous êtes expert en matière de travail et analyste indépendant. Et à votre avis, comment peut-on concilier justice sociale et viabilité économique?
Bon, en renforçant un dialogue sincère entre les parties, de manière à ce qu'ils agissent à l'unisson, tout en sachant qu'il n'y aura pas de compromis sans compromission de la part du gouvernement qui tient à réformer les choses, de la part de l'entreprise qui tient à ses intérêts, coûte que coûte, et de la part du banc syndical qui est en disharmonie avec les structures opérationnelles dans les entreprises. Il faut-il ici dire que le CNT ne devra pas produire des décisions qui vont au contre-courant des réalités des terrains.
Oui, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal qui a connu la coordination et la supervision éditoriale d'Alain Hong Moshish et la mise en onde de Pierre Diassinois. Ce journal est à suivre sur notre site internet www.radiocapi.net.